Alors, par rapport au sens, à la question du sens, parce qu'on a beaucoup reproché à cette méthode, qui est en fait une méthode synthétique, qu'elle soit, comment dire, minorante pour le sens. Je voudrais donner un exemple là, donc à propos du travail du haut ouvert. J'ai préparé des tableaux, donc comme il en existait dans les classes autrefois, des tableaux de syllabes. Et j'aimerais bien qu'on réfléchisse un petit peu au sens de différentes cases. Par exemple, la première qui est ici, comme on lit or, or, ça existe, c'est quelque chose qui existe. Donc, on peut trouver un sens à cette toute simple association de deux lettres. C'est la même chose pour os. Sachant qu'il y a des enfants qui disent os, mais ça, c'est encore un autre problème. Il faut s'adapter à ce moment-là à la situation. Ce que je voulais montrer, c'est que dans ces assemblages, il y en a qui sont déjà des mots. Comme celui-là, sol, c'est déjà un mot. Il n'y a rien à y remettre ni à y enlever. C'est déjà un mot. Il y a déjà un sens. Donc, on peut déjà demander à l'enfant, ben, est-ce que tu connais, comment on s'en sert, où est-ce qu'il y en a? Alors, il vaut mieux éviter de dire, explique-moi ce que c'est, parce que ça, c'est le genre de questions qui les bloquent en général. Il vaut mieux essayer de jouer un petit peu, d'être en interaction et donc de faire un petit peu du théâtre et de contourner un petit peu la question qui est la nôtre. Donc, il y a le sol. Bon, toc, à limite, ça fait toc-toc. Alors, on amène l'enfant, lorsqu'il a déchiffré ça correctement, c'est un peu une récompense, et puis ça montre que ça a du sens qu'on fait, lui demander ben, une petite histoire où il y aurait toc-toc, à quelle occasion on utilise ça, etc. Alors, ce que je voulais indiquer, qui est un peu particulier sans doute, c'est que dans ce cas-là, on est en lecture alphabétique et qu'on ne tient pas compte de l'orthographe. C'est-à-dire qu'en fait, on se fie à l'oreille, à ce que l'enfant entend. Et s'il dit tort, nous on sait qu'il y a une lettre qui finit ce mot, mais l'enfant ne le sait pas. Et s'il nous explique qu'il a pris le cou du chat et qu'il l'a tordu, ou qu'il a pris une feuille de papier et qu'il l'a tordu, on n'a pas le droit, selon moi, de lui dire c'est pas vrai. Dans son esprit à lui, phonétiquement, c'est juste, ça correspond bien au mot tordre. Et il y a plein d'exemples là. Il y a sort, par exemple, qui est du même type. Nous, on sait qu'il y a un T. Lui, il sait pas. Il le saura peut-être en CE1, peut-être en CE2. Il va s'écouler beaucoup de temps avant qu'il le sache. Donc, s'il nous dit sort, c'est le fait d'aller dehors, on n'a sûrement pas le droit de lui dire non. Je pense, entre autres, aux enfants dyslexiques qui n'aiment pas du tout qu'on les contrecarre sur quelque chose qui leur paraît vrai. Et ils ont raison. C'est vrai. C'est nous qui aurions tort de dire non, parce que auditivement, effectivement, ça correspond bien au mot en question. J'ai l'exemple de l'homme, qui est un mot connu, mais l'homme, nous, on sait que ça ne s'écrit pas comme ça, mais l'enfant, quand il l'entend, il a tout à fait raison de dire que c'est un monsieur qui se trouve quelque part dans la rue, par exemple. Ah oui, alors, alors, je voulais montrer un petit peu aussi, parce que si vous voulez, ce que je veux montrer par là, entre autres, c'est que l'enfant, dans cette méthode-là, s'engage personnellement. On ne lui raconte pas l'histoire de quelqu'un. On ne se réfère pas à une culture qui n'est pas la sienne, à un niveau de connaissance qui n'est pas le sien. On reste vraiment de façon basique. Et donc, on prend des petits exemples qui correspondent au graphème que l'enfant connaît et aux assemblages que l'enfant sait faire, de façon à l'interroger constamment. En fait, on l'interroge constamment. Tu vas à l'école, oui, c'est vrai, ou avec qui pour pas lui demander ce que ça veut dire, parce que ça serait un petit peu ridicule, je lui demandais qu'est-ce que ça veut dire, tu vas à l'école. Mais essayez de le mettre en situation et qu'il puisse s'exprimer sur ce qu'il vient de lire là. Tu as un vélo, bon, ben ça en général, ça intéresse bien de parler de ça. Donc toutes les propositions là ont pour objectif premier de travailler sur les assemblages, et objectif second de vérifier la compréhension. Et je dirais troisième objectif, faire en sorte que l'enfant soit complètement pris dans les propositions écrites qu'on lui fait. Et ça aussi, ça marche bien. Il y a des enfants pour lesquels le pronostic d'apprentissage est vraiment très très mauvais, qui s'engagent dans la lecture, sans doute grâce à cette interaction qu'on a entre lui et nous. Alors, en ce qui concerne l'apprentissage lui-même, j'ai fait à peu près le tour, dans le sens où, quand l'enfant sait lire des petites phrases comme ça, au fur et à mesure que l'on découvre d'autres sons et d'autres capacités d'assemblage, on peut lire des mots de plus en plus compliqués, des phrases, des textes. Évidemment, on a mis le pied à l'étrier. Alors, je voulais juste montrer, là, c'est au démarrage, je parlais de lecture logographique et alphabétique. Donc, ce qui est dans les cadres jaunes, en fait, ça correspond à la lecture logographique. On demande aux enfants un petit capital de mots pour arriver déjà à faire du sens. Pour bien indiquer qu'il ne doit pas déchiffrer, dans ce cas-là, on les a mis dans un cadre jaune. Parce que dans ma pratique, j'avais remarqué qu'un enfant, des enfants cherchaient à déchiffrer des mots qu'il fallait connaître globalement. Je pense au moins au mot « femme », par exemple. Il est quasiment indéchiffrable. Et qui cherchait à se remémorer globalement des mots qu'il fallait déchiffrer. Donc, c'était juste pour répondre à ce que j'avais observé dans ce cas. Donc, ce que je voulais montrer ensuite, c'est qu'on ne travaille pas à l'aveuglette, que ce soit pour des enfants en difficulté ou pour des enfants dyslexiques. Il faut savoir où on en est avant de démarrer. Enfin, pour les enfants en difficulté, ça dépend. S'ils commencent juste l'apprentissage, en principe, ils en sont à pas grand-chose. Donc, ce n'est pas la peine de faire un test. Pour les enfants qu'on peut soupçonner dyslexiques ou en grande difficulté, j'ai élaboré un test qui permet de savoir précisément où on en est dans l'apprentissage de la lecture, donc dans l'apprentissage du code, puisque moi, je m'attache essentiellement au code. Donc, ce test a été fait d'abord de façon empirique, enfin, vu mon expérience d'institutrice et de psychologue scolaire. Mais ensuite, il a été passé sur un certain nombre d'enfants. Et cette version-là, elle est issue des statistiques qui ont été faites après ces passations. Donc, en fait, ce qui est en haut, c'est ce que les enfants connaissent le mieux. Parfois, c'est à 100%. Par exemple, ça, là, c'est pratiquement 100% des enfants qui le connaissent, à une exception, très exceptionnelle près. Et après, on s'achemine vers des formules de plus en plus compliquées. Alors, il y a trois paramètres. Là, j'ai mis son, mais maintenant, je mets graphonème. Là, j'ai mis syllabe, mais maintenant, je mets assemblage. Et de façon à pouvoir mesurer des compétences différentes, parce qu'entre ces trois colonnes, les compétences sont tout à fait différentes les unes des autres. Alors, ce test-là permet... donc, je vais vous montrer la fin. Ce test-là permet de faire le tour de la question en ce qui concerne les connaissances du code et son utilisation par des enfants qui seraient en retard dans les classes, puisqu'on trouve parfois des enfants de CE2, voire même de CM2, qui réussissent un dixième à peu près de l'épreuve et qui, bien entendu, sont en grosse difficulté en lecture. Ça me semble tout à fait évident, hein. Voilà, donc c'était juste un aperçu. Et puis, je voulais vous indiquer quelques petites choses un peu anecdotiques, mais qui peuvent rapprocher un petit peu du thème psychologique. Par exemple, on propose le mot « poli ». Donc, c'est du déchiffrage qu'on demande. Et l'enfant va lire « police ». Donc, je crois qu'il y a deux explications. Il y a celle d'abord où il n'a pas totalement bien déchiffré, mais il y a celle également où il a fait une projection de quelque chose qui est important pour lui, certainement, et qui apparaît alors que ça ne nous semble pas vraiment bien correspondre. Alors là, c'est un problème beaucoup plus technique là, que je voulais mentionner. Quand les enfants lisent la PLTRMV, par exemple, ça arrive quelquefois que quand ils lisent un assemblage, ils utilisent le nom, la lettre et non pas le phonème. C'est-à-dire que pour celui-là, cet enfant m'a dit « muppé ». De même, pour « oup », il m'a dit « oupé ». Pour « pastis », il m'a dit « pa-s-ti-s ». Pour « sourd », il m'a dit « sou-r-d ». Donc, c'est un enfant qui est entre le déchiffrage, la connaissance de l'alphabet, qui n'a pas encore tout à fait maîtrisé tout ça. Mais je me demande pour certains enfants si ce n'est pas le fait qu'ils aient appris le nom des lettres qui les induit en erreur après quand il faut faire des assemblages rigoureux. Alors, juste encore un exemple d'erreur qui sont des erreurs là par le sens. Là, on a vu des erreurs par la technique et là, on voit des erreurs par le sens. Donc, les fameux ES qui font partie de la lecture orthographique ont été évacués ou pas pris en compte, en tout cas par l'enfant. qui, en voyant le début, eh bien, faire pendule, parce que c'est un mot qu'il a dû rencontrer, sans doute. Donc, ça l'arrange que ça soit transformé en pendule. Et puis là, c'est assez amusant, parce que là, incendier, je ne sais pas trop comment il s'y est pris pour lire ensorcelier. J'ai pensé un peu à ensorceler, mais c'est un mot un peu quand même difficile. Je ne vois pas bien comment il a réussi à lire ensorcelier pour incendier. Ça, c'était un enfant pas spécialement dyslexique, mais qui avait des difficultés de comportement et de personnalité et qui a été orienté en classe de perfectionnement. Alors ça, c'est plus technique, c'est un petit exemple beaucoup plus technique. Pour le mot « heure », l'enfant lit « eur ». Donc là, ça montre qu'il ne connaît pas le son « e », le graphème « eu ». Alors, pour terminer, je voulais montrer quelques exemples des résultats de ce test-là, que j'appelle l'ABCD de la lecture. Donc, pour un enfant de CE2, vous voyez, ça, il était en CE2, cet enfant-là, et voilà le niveau qu'il a atteint dans cette classe, c'est-à-dire qu'il connaît 5 sons, une syllabe, un mot, en janvier, et en mai, il connaît 5 sons, je crois aussi, non, 8 sons, une syllabe et un mot. Donc, en janvier, février, mars, avril, disons 4 mois à peu près, on peut dire qu'il a stagné, il n'y a pas d'évolution notable au niveau de l'apprentissage de la lecture. Donc là, c'est un autre exemple d'un enfant de CE1. Alors, en novembre, on a ces résultats-là, donc 21 sons, 18 syllabes, 17 mots, et en mai, on voit quand même une grande progression dans tous les domaines, en particulier dans tous les domaines, mais c'est vrai qu'en lecture de mots, c'est important parce qu'il sait lire presque la moitié, enfin il doit s'y lire, mais un peu plus la moitié des mots. Donc il doit être déjà beaucoup plus à l'aise en classe par rapport aux activités qui lui sont demandées. Là, c'est un autre enfant, enfin c'est un enfant de cours préparatoire. Et ce que ça montre là, c'est que en fait, il peut y avoir un progrès. Alors là, j'ai marqué, voilà. Donc là, en fait, c'est le test avant toute intervention. Ça, c'est le test après une intervention avec les outils dont je vous ai parlé. Et puis après, il y a eu un arrêt de l'aide. Et c'est le résultat après cet arrêt de l'aide. C'est-à-dire qu'on voit que malgré la scolarisation, le niveau retombe. C'est-à-dire que ce qui est acquis n'est pas forcément définitivement acquis. Et puis, je vais terminer avec cet exemple-là. Donc, c'est le même enfant qui a été testé plusieurs fois au cours de sa scolarité. La première fois, c'était en mars 1999. Il était au cours préparatoire. Voilà le profil qu'il avait après 6 mois de scolarité à peu près. On a travaillé avec l'orthophoniste et avec la maîtresse un petit peu et on a réussi à avoir des résultats qui se sont améliorés là en juin 99 et qui se sont poursuivis un petit peu en décembre 99. Ensuite, on voit en février 2000 que les progrès se sont surtout accrus au niveau de la connaissance des sons, assez peu quand même, relativement disons, au niveau de la connaissance de la lecture de syllabes et de mots. On voit que cet enfant continue à progresser encore plus ou moins régulièrement, mais enfin, on peut dire que c'est quand même un progrès. Et là, il a été scolarisé en classe de perfectionnement, là. Et au bout d'une petite année de classe, on voit des résultats qui ont rechuté. En ce qui concerne la lecture de mots, en tout cas. Voilà, donc la conclusion, c'est que quelle que soit la difficulté de l'enfant, je pense qu'on doit pouvoir l'aider. Moi, j'ai toujours été en tant qu'institutrice puis psychologue scolaire convaincue qu'on pouvait encore et toujours faire quelque chose. C'est ce qui m'a amenée à construire ce matériel et maintenant, je l'utilise pour des enfants dyslexiques, justement, ou alors pour des classes, voire ZEP, simplement, qui cherchent quelque chose qui n'existe pas et qui pourrait les aider davantage. Voilà, je vous remercie.
Avez-vous des questions à poser ?